Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, les chiffres sont là. Un travailleur moyen en 2023 a 500 heures de loisirs en plus qu'en 1950. Ça s'appelle le progrès et c'est formidable. Mais que faisons-nous de ce temps libre puisque la durée du travail sur toute une vie sera désormais de 12% avec une carrière complète aux 35 heures et en vivant 85 ans. Que faisons-nous de cet océan de liberté? Eh bien, il est essentiellement absorbé par le divertissement. Je reçois Olivier Babeau qui publie chez Buchet-Chastel La tyrannie du divertissement, un essai passionnant, particulièrement à l'heure de la démission silencieuse, mais aussi au moment où s'amorce le remplacement de nombreux métiers par l'intelligence artificielle. Alors voilà, le bon usage du temps libre s'annonce comme un vrai défi dans ce siècle. Bonjour, bienvenue Olivier Babeau.
Bonjour, merci de votre invitation.
Bon alors, d'entrée de jeu, hein, Olivier Babeau, précisons que l'objet de ce livre n'est pas du tout de déplorer le recul du travail dans nos sociétés privilégiées. Voilà, puisque vous y voyez un réel progrès. Mais en France, en précisant les choses, en 1950, la durée annuelle moyenne du travail était de 1950 heures. Mmh. Aujourd'hui, elle est de 1400 heures. Alors, c'est une avancée prodigieuse, effectivement, mais vous dites que ce temps libre est un cadeau redoutable.
Oui, alors d'ailleurs, d'autant plus qu'on vit encore plus longtemps qu'en 1950.
Ben oui.
Ça veut dire que il y a un effet ciseau à l'envers, si vous voulez. Donc ça s'agrandit, hein. Notre temps libre s'agrandit encore plus. Alors, c'est redoutable parce qu'on a été balancé dans cet océan de temps libre, peut-être sans préparation, sans réflexion. On a accueilli ça un peu comme les Hébreux dans le désert, le veau d'or. C'est formidable, on a du temps libre. Ce temps libre, il n'est pas interrogé parce que le temps libre, c'est le but de la vie, c'est ce moment de liberté. Vous allez pouvoir faire, par définition, ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez y faire sera forcément bon. Il n'y aura donc pas de possibilité de mal l'utiliser. Or, on peut poser la question, n'y aurait-il pas des façons de mal utiliser son temps libre, en tout cas de moins bien l'utiliser? Toutes les occupations ne se valent pas.
Au milieu du 19e siècle, un homme travaillait en moyenne, vous allez dire, elle aime vraiment les chiffres, mais un homme travaillait en moyenne 70% de sa vie éveillée. C'est énorme. Et récemment, il a été calculé qu'une personne faisant justement une carrière complète aux 35 heures et atteignant 85 ans n'aura travaillé que 12% de sa vie éveillée. Donc, ça signifie que le temps libre représente désormais la grande majorité de notre vie et que pour la première fois, en fait, depuis la naissance de l'humanité, l'homme est confronté à cette question. Jamais elle ne lui a traversé l'esprit.
Oui, alors en fait, c'est une parenthèse de 10 000 ans, excusez du peu, qui se referme. Il y a 10 000 ans, vous savez, c'était le néolithique. C'était le début du moment où on a commencé à être sédentaire et non plus nomade, où on a cultivé et puis on a élevé des animaux. Et à partir de ce moment-là, ils sont apparus assez rapidement après les villes, mais aussi les différences sociales. Et puis la nécessité de travailler, parce que l'agriculture, ce n'est pas du tout le travail du chasseur nomade.
La sédentarité induisait effectivement
exactement. Et ça a
le
été,
travail.
Ça a été la longue nuit du loisir. Ça a mis 10 000 ans, en fait, pour nous à être retrouvés. Le moment où on a touché le fond de la piscine, c'était au 19e siècle, en particulier, évidemment, pour toute la classe ouvrière.
Mais
qui,
oui, on a tous
pour qui la
là.
Vie était essentiellement du travail, avec malheureusement quelques instants de loisirs, mais relativement fugitif, et un travail d'ailleurs qui vous brisait, hein, qui vous cassait le corps et qui faisait que vous ne viviez malheureusement pas très longtemps. Depuis, le XXe siècle est un moment d'extraordinaire gain de temps libre, et puis ça y est, on est arrivé en ce début de 21e, on est revenu en quelque sorte un petit peu dans l'état qui était le nôtre il y a 10 000 ans, puisque on sait que les chasseurs-cueilleurs hein, du paléolithique, ils faisaient en fait la semaine des deux jours, alors on n'y est pas complètement encore, mais si on se met sur toute notre vie, c'est probablement à peu près ça la moyenne,
oui,
hein,
oui.
La semaine des deux jours, c'est-à-dire qu'en fait ils travaillaient 2-3 heures par jour pour subvenir aux besoins matériels, mais enfin le reste du temps, ils dormaient, ils discutaient, ils étaient entre amis. Quelque part, c'est un peu ça que grâce à la technologie, on est en train de vivre à nouveau une vie de loisir, une vie où il y a essentiellement du loisir, où on intercale un peu de travail.
Mais vous affirmez que ce temps libre, qui a donc envahi nos vies, serait beaucoup moins qu'on ne le pense, synonyme de bonheur.
Bah, en tout cas, si on regarde les chiffres, on n'a jamais eu autant de temps libre. En même temps, on n'a jamais eu autant de gens qui dépriment. Hein. 10% des Français seraient en dépression chaque année. On est quasiment les champions mondiaux en termes de consommation d'anxiolytiques, hein,
oui.
D'antidépresseurs, de choses pour essayer d'aller mieux. Paradoxalement, ce temps libre n'est pas le temps du bonheur. Le temps du divertissement n'est pas complètement le temps du bonheur. On n'a pas l'impression qu'on soit tellement plus heureux. En revanche, on est plus diverti, ça c'est certain. C'est l'un des paradoxes du monde où on est plus en bonne santé, on a théoriquement un bien-être, une sécurité objective qui est beaucoup plus forte et on n'a pas l'impression d'être collectivement tous beaucoup plus heureux.
Mmh. Alors Olivier Babot, en grec ancien, loisir se dit skolé, qui a donné le mot école.
École.
Voilà, les Grecs de l'Antiquité considéraient donc que le loisir était lié à la culture. Aujourd'hui, les loisirs représentent un marché, mais surtout le droit à la paresse intellectuelle en étant un consommateur passif qui réclame un plaisir immédiat. On est à l'ère du divertissement. Et alors, le fait d'être passé du loisir, en fait, qui, vous allez nous l'expliquer, avant, était catégorié en trois parties, le fait d'être passé du loisir, en fait, purement divertissant, ça vous inquiète ?
Oui, mon problème est un problème d'équilibre. D'ailleurs, c'était les Grecs qui disaient que le seul problème, c'était un problème de déséquilibre, justement. C'est quand il n'y avait plus, pour dire, les bonnes proportions entre les choses. Alors, il y a trois façons d'occuper le temps pour soi, le temps arbitrable, qui est le loisir. La première, c'est le temps pour les autres. C'est le temps amical, le temps familial, le temps où vous allez être dans l'agrégation sociale. Mmh. Et puis, en effet, la scolae, c'est-à-dire le loisir studieux. En fait, c'était ce que vous faisiez quand vous étiez suffisamment
studieux,
riche.
Studieux, c'est un petit peu austère.
Studieux. Alors, c'était studieux au sens où vous allez travailler sur votre corps et sur votre esprit, sur vous-même. En fait, le loisir studieux, c'est ce que vous faites quand vous faites de l'art, quand vous lisez, quand vous faites du sport, quand vous réfléchissez. Voilà, c'est studieux au sens, pas forcément vous êtes penché sur des livres à faire des choses compliquées ou des équations. Non, c'est studieux, c'est possible aussi.
Mais vous vous enrichissez voilà, grâce à des connaissances.
Celui où vous êtes actif, vous êtes dans une démarche active de construction de vous-même, de meilleure connaissance de vous-même. En fait, c'est ce que vous pouviez faire quand vous aviez la chance d'être assez riche pour avoir des esclaves à l'époque qui travaillaient pour vous. Chez les Romains, ça a donné l'osium. L'osium, c'est là, c'était le loisir du riche romain qui avait des esclaves qui travaillaient. Et le négocium, par opposition, qui a donné le mot négoce, c'est le commerce. Le business, c'est le fait d'être occupé. Et pour un Romain, il n'y avait rien de pire. Le fait d'être occupé, c'était un truc d'esclave. Et donc, ce qu'il fallait, c'est être libre. Libre, pourquoi ? Parce que du coup, vous pouviez cultiver vos capacités. Vous pouviez vous adonner à la seule chose vraiment importante, c'est-à-dire vous occuper de vous-même. Ça, c'est le deuxième loisir. C'est le loisir pour vous.
Et puis, mais on est arrivé au troisième.
Et le troisième, c'est le loisir hors de soi, le loisir divertissement, le loisir qui vous perd à vous-même, qui vous aliène, qui vous diminue en fait. C'est pas celui qui vous accroît, mais qui vous diminue. Celui aussi où vous êtes passif, c'est le divertissement alors, au sens évidemment pascalien. C'est un clin d'œil évidemment très appuyé à Pascal qui parle de ce divertissement. Alors pour Pascal, le divertissement, c'est tout ce qui ne s'intéresse pas à Dieu directement, c'est inutile. Bon, ma perspective, elle est plutôt le divertissement, c'est cette passivité, c'est ce temps perdu, ce temps pour rien, ce temps hors de soi, au lieu d'être un temps pour soi. Donc vous voyez, il y a quand même trois façons très différentes d'occuper son loisir. Donc il y a trois derrière qualités d'occupation. Le problème, ce n'est pas évidemment qu'il y ait du divertissement. Il y a toujours des moments où on a besoin d'être tranquille, d'être sur son canapé à zapper et à ne pas réfléchir. Je crois qu'on en a tous besoin. En revanche, le problème, c'est une question de proportion. Est-ce que le divertissement n'a pas tout phagocyté ? Voilà.
Mais l'occupation du temps libre est un art qui n'est pas enseigné. Et ce temps libre, on le remplit souvent en fonction de son appartenance sociale ?
Autrefois, les aristocrates, ils avaient un savoir-faire terrible du temps libre. D'abord parce qu'ils ne travaillaient pas, donc il fallait savoir ne rien faire.
Il y a qu'à relire Proust.
Eh bien, il y a qu'à relire Proust. C'était en fait une vie où vous aviez énormément d'obligations. Il fallait changer d'habit 10 fois par jour. Il fallait être à tel endroit,
tout
à tel
codifié.
Moment. C'était extrêmement codifié. Si vous n'étiez pas à votre chasse à certains moments, si vous n'étiez pas sur la côte et puis à un autre moment à Paris, c'était extrêmement important de faire société. Donc, vous étiez tout entier en fait dans le loisir d'agrégation sociale, que j'appelle d'ailleurs le loisir aristocratique. Donc c'était un boulot à soi tout seul et à temps plein. D'ailleurs, être courtisan, c'était pas être en vacances, contrairement à l'image qu'on a. Hein. C'était pas passer son temps à manger des macarons et à se goberger. Non, c'était un boulot à temps plein. Il fallait être vu du roi. Vous alliez vous battre pour vos prébendes. Ça, c'était évidemment une certaine époque. Le loisir studieux, c'est le loisir de l'étude, de ceux qui vont penser qu'il est important d'augmenter ce qu'on pourrait appeler son capital humain. Et c'est un petit peu ce qu'ont fait les bourgeois à partir du 19e siècle, puisqu'ils ont vu que les leviers de réussite sociale changent, que l'exigence de capital humain ne fait qu'augmenter, elle n'a fait qu'augmenter. Et encore une fois, en ce début du XXIe siècle, il augmente de façon extraordinaire. Si vous voulez être, faire partie de la classe dominante demain ou continuer à posséder les leviers de la réussite pour faire partie de l'élite, vous êtes obligé d'acquérir ces savoirs. Ça veut dire un boulot à temps plein. Ce boulot, il se fait quand ? Dans le loisir.
Mais alors, si maintenant on s'intéresse aux classes modestes, vous dites que le divertissement populaire est dans la célébration du plaisir immédiat, parce que dans les milieux modestes, on ne peut pas en fait être sûr du futur, on ne peut être sûr que du présent, on n'a pas le temps d'attendre, on est dans cette immédiateté du plaisir à savourer tout de suite.
Absolument. Il y a des études sociologiques qui montrent qu'il y a une différence de rapport au temps et aux opportunités. Quand vous êtes pauvre, assez logiquement et de façon rationnelle, vous allez penser que ce qui va passer est une occasion qu'il faut prendre tout de suite. La logique de la mise à distance du plaisir, de l'épargne, de l'idée que vous allez pouvoir attendre, patienter, est une logique que vous pouvez vous permettre plus facilement si vous êtes plus riche. Cette fameuse expérience, vous savez, du chamallow, vous mettez des enfants devant un chamallow et vous lui dites je sors de la pièce, je vais rentrer après, si tu as le courage d'attendre, je donnerai deux chamallows. Et tu regardes ce que les enfants font et tu les suis pendant 30 ans et tu regardes ce qu'ils deviennent. Et ben, les résultats de l'expérience sont terribles. Ceux
Mais
qui ont attendu
effrayant, ce que
sont
vous
plus
nous
riches,
dites
sont
là.
Plus heureux, etc. Ceux qui n'ont pas attendu, évidemment, sont plus pauvres. Et en fait, ceux qui n'ont pas attendu sont en général les enfants de milieux plus modestes. Vous avez une différence de rapport au temps qui vous est transmise par vos parents. Donc, vous voyez que les différences sociales sont terribles parce que vous transmettez non seulement des savoir-faire, des savoir-être dans l'usage du temps libre, mais aussi des espèces de logique mentale qui font que vous aurez peut-être plus de mal à vous adonner à des sortes de loisirs qui vont plus vous enrichir. Et ça, c'est une barrière qu'on ne voit plus du tout. Ouais. Qu'autrefois, on voyait, la gauche autrefois était extrêmement consciente du fait qu'il fallait une politique du temps libre. Mmh. Et quand, en 1936, on a donné des congés payés, l'idée n'était pas d'aller se faire
mais
dorer la pilule sur la
plage.
Et il y a eu un ministère en 1981 du temps libre.
Oui.
Il n'a pas survécu à 1984. Il est mort. Au bout de 3 ans, on l'a enlevé. Mais l'idée de la gauche, quand elle est arrivée au pouvoir, c'était que le temps libre, c'était sérieux. Ouais. La droite s'en est jamais occupée, mais pour des raisons assez logiques, puisque finalement, les gens de droite, mettons, qui sont de façon peut-être caricaturale, mais un peu plus aisés, ils ont déjà une habitude du temps libre. Et donc, vous n'avez pas à la transmettre. La gauche était au contraire très consciente du fait que c'était le point fondamental, peut-être d'une façon de comprendre la lutte des classes à l'époque, mais une façon d'ailleurs, je trouve, constructive. Mmh. Il fallait que les ouvriers apprennent, qu'ils aillent au cours du soir, on les encourageait, mais c'est évidemment d'autant plus difficile que votre emploi vous casse, vous fatigue.
Bien sûr
que votre emploi est extrêmement difficile, vous avez fait 2 heures de RER,
vous
arrivez, il est évident que vous n'allez pas vous mettre à lire Kant tout de suite. Quoi.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Olivier Babeau, Blaise Pascal, qui au XVIIe siècle écrivait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Oui. » L'ennui est donc la terreur absolue et se divertir, en fait, c'est faire diversion, c'est échapper à soi-même, c'est oublier notre condition de mortel, se divertir pour ne pas réfléchir, surtout ne pas réfléchir, échapper à soi-même.
Même si on n'a pas vécu comme les jeunes aujourd'hui toute sa vie dans ce monde numérique, on se rend compte que notre vie a évolué et qu'on a de plus en plus de mal, enfin, je parle pour moi, à faire silence en soi, à accepter le silence d'ailleurs, à ne pas être entouré en permanence de musique, d'écouteurs, à ne pas toujours avoir recours à un contenu qui va pouvoir titiller votre intérêt. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au bout du doigt en permanence, dans la poche, des contenus infinis, au sens propre, toutes nos existences, des centaines, des milliers d'existences.
On ne sait plus vivre seul avec nous-mêmes.
Exactement, vivre avec nous-mêmes, être en dialogue avec nous-mêmes, faire silence, réfléchir, peut-être nous ennuyer comme on le faisait quand on avait des longs trajets en voiture et qu'il n'y avait rien à faire. On s'en souvient dans la voiture derrière, et ben on rêvassait et voilà. C'était
et
pas
c'est
si mal.
Fécond, l'ennui.
Et regardez tous les grandes œuvres d'histoire de l'humanité, les grands génies. Non seulement ils ont des capacités extraordinaires qu'on n'a pas tous, mais surtout ils ont une quantité de travail. Regardez ces 15 000 pages, le journal de Léonard de Vinci, par exemple. Jean-Sébastien Bach, rien que pour recopier tout ce qu'il a composé, il faudrait des années. Donc ces gens-là, en fait, ont donné une quantité de temps énorme. Ce temps, vous l'avez parce que vous n'êtes pas distrait. Et en fait, l'un des soupçons aujourd'hui, c'est qu'on est dans une civilisation qui va encourager la distraction. Parce que le divertissement, l'entertainment est aujourd'hui devenu une partie importante de l'économie. Et là-dedans, il y a notamment évidemment le jeu vidéo, puis l'ensemble des contenus. On a en permanence à disposition tout ce qui va pouvoir venir nous empêcher de nous ennuyer. Mais peut-être que l'ennui était pourtant fécond à bien des égards.
Olivier Babeau, prends un livre et lis. Eh bien, cette phrase, c'est sans doute celle prononcée par votre père que vous avez le plus souvent entendue dans votre enfance. Aujourd'hui, il est pratiquement inconcevable d'oser dire ça à un adolescent.
Alors, moi, je le dis à mes enfants, je crois que ça les énerve beaucoup.
Ça les énerve.
Ça les énerve beaucoup, comme moi, ça m'énervait à l'époque. Alors, j'ai reconnu, après coup, que c'était l'équivalent du conseil, vous savez, du fermier à ses enfants, vous savez, celui qui dit dans le poème de La Fontaine, « Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. » Et en fait, on se rend compte que le travail est un trésor, n'est-ce pas? Et ce conseil de mon père, parce que c'est un peu d'ailleurs le point de départ de mon livre, la disparition de mon père, ce qui fait réfléchir, évidemment, sur le sens de la vie, sur le sens de l'existence, le sens de son métier. De ce qu'on fait, de ce qui lui plaisait. Il est mort quasiment en travaillant. Vous savez, comme Louis Vierne était mort, ce grand organiste, il était mort à Notre-Dame en plaquant le dernier accord de son concert où il jouait son propre morceau. C'est une mort extraordinaire quelque part. C'est-à-dire que jusqu'au bout, vous avez fait ce que vous aimiez. Pour ces gens-là, pour ces gens qui aiment leur métier, il n'y a pas de retraite, puisque vous faites jusqu'au bout.
Le pianiste vous le dites, jouera jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de métier, mais de profession.
Exactement.
Et la profession,
d'ailleurs,
c'est
Castiglione,
une passion.
Dans Livre du courtisan, il dit « Et voilà. Nous, nous n'avons pas un métier, nous avons une profession. » Voilà, ouais. Nous sommes certains d'avoir la chance d'avoir une profession. On fait souvent la différence entre l'activité rémunérée, l'activité non rémunérée, loisir et travail. Mais en fait, c'est une différence qui n'a pas beaucoup de sens à beaucoup d'égards. Le pianiste, il va être payé pour jouer, mais il jouera quoi qu'il arrive. Et il sera content de jouer. En fait, c'est beaucoup plus intéressant de faire la différence entre l'activité qui vous réalise et puis l'activité qui aliène. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus riche.
Et quand votre père vous dit « prends un livre et lis », eh bien, c'est que ça, c'était la recette, en fait, de la réussite de sa vie, n'est-ce pas ?
Ben, oui, dans la culture, évidemment, d'intellectuel. Il était professeur d'université,
voilà,
grand spécialiste
économiste,
de l'épargne, des retraites et du patrimoine. Et donc, pour lui, peut-être une façon un peu brusque, peut-être parce qu'il était dans une culture où les pères n'étaient pas encore très proches de leurs enfants, ce qui a changé depuis, heureusement. Hein. Voilà, on dispensait les conseils de vie de façon assez simple. Voilà, il n'y avait qu'une seule chose intéressante, c'était d'étudier. Et je raconte aussi dans le livre cette anecdote. Je suis un jour en summer camp et pour la première, je dois avoir 13-14 ans, pour la première fois, un camper, donc, aux États-Unis, et me dit « Are you having fun ?» Parce que c'est très important aux États-Unis d'avoir du fun, c'est pas, de s'amuser.
Tu t'amuses, tu t'éclates.
Et alors, je m'arrête sur place et je suis comme frappé par la foudre. Je me dis « Mais c'est la première fois dans ma vie qu'on me pose cette question. » Pourquoi ? Parce que dans mon éducation, avoir du fun, s'amuser, c'était pas une catégorie, c'était pas une question composée.
C'est complètement anecdotique.
On s'amusait, mais c'était quelque chose dont il n'était pas intéressant de parler. Ça n'était pas le centre de l'activité. S'amuser devait être une sorte de sous-produit de l'activité des enfants. Mais ce qui était important, évidemment, c'était de prendre un livre et lire. Et maintenant que je suis grand, j'ai compris que c'était vrai.
Alors, Olivier Babot, vous avez eu 20 ans en 1996. Est-ce qu'il était plus facile de devenir un adulte épanoui et équilibré dans la société d'il y a presque 30 ans, avec les propositions qu'elle nous faisait
en tout
par
cas,
rapport à aujourd'hui.
Moi je me souviens qu'à l'époque, on nous disait toujours « Ah, mes pauvres amis, c'est la crise, c'est très difficile. J'entrais sur le marché du travail. » Enfin, je n'y étais pas encore en 96, parce que j'ai fait des études très longtemps. Mais enfin, on nous disait « Oh là là, avoir un emploi, un CDI, c'est le graal absolu, vous n'allez jamais y arriver. » Ce qui est vrai, c'est qu'on avait moins de sollicitations, évidemment. Moi, j'ai grandi, on avait une télévision, évidemment, qui n'était pas toujours en couleur, qui l'a été très tard dans le salon. Il n'était pas question de la regarder le soir, on la regardait très peu ou relativement peu. Et évidemment, je suis fait par partie de ceux qui ont eu des téléphones portables peut-être à partir des années 2000, mais pas avant. Et donc, c'était plus facile à l'époque de prendre un livre et de lire parce que grosso modo, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Et c'est vrai que c'est la difficulté. On se combat aujourd'hui avec nos enfants hein, qui ont tellement de sollicitations, tellement de possibilités. Et ils savent que les écrans ont toutes ces séductions. Comment arriver à les persuader que les livres peuvent aussi être des endroits peut-être plus exigeants, nécessitant de mettre parfois le plaisir un peu plus à distance, mais apportant une qualité de plaisir qui est extraordinaire. C'est un enjeu qui est beaucoup plus difficile, c'est un défi qui est plus difficile aujourd'hui, c'est sûr.
Et puis façonner sa pensée, parce que le wokisme et la cancel culture, qui règne en maître comme un grand tribunal virtuel aujourd'hui, bah, n'existait pas quand vous aviez 20 ans. Penser par soi-même aujourd'hui, c'est quand même devenu très courageux.
C'est vrai que c'est dingue, j'étais dans une époque où je trouvais tout à fait naturel que tout le monde puisse tout dire, où les races étaient égales, et d'ailleurs on n'en parlait pas parce que c'est censé ne pas exister.
Voilà.
Et on voulait
ça
être...
n'était pas un sujet.
Ça n'était pas un sujet, et voilà, on voulait être absolument à égalité. Et on pensait que ça y est, c'était la fin de l'histoire, on était arrivé à trouver le bon équilibre moral. C'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui dans cette cancel culture qui, à mon avis, est encouragée par plein de choses, mais elle est encouragée, je crois quand même, par une forme d'ignorance, hein, de monter de l'ignorance. Et c'est le grand professeur Alan Bloom, l'américain, qui avait fait un livre extraordinaire qui s'appelait The Closing of the American Mind, qui est très bien traduit en français par L'âme désarmée, dans les années 80. Et en fait, c'était sur le déclin de la culture générale chez les étudiants américains, déjà à l'époque. Et en fait, il montrait combien ce déclin désarmait l'âme, justement, et faisait que bah, vous n'étiez plus capable de lutter contre les forces des sophismes, évidemment, des différents démagogues. Et c'est exactement ce qui s'est passé 40 ans plus tard. Je crois que le démantèlement de la culture générale est arrivé. Moi, je crois toujours que le wokisme, ce genre de puritanisme, parce que c'est ça, en fait,
oui,
n'arrive toujours qu'en bout de course d'une extraordinaire opération d'ignorance qui vous rend ouvert à toutes les démagogies.
Hélas. Alors, je reprends le fil. Olivier Babot, votre père était un économiste. Oui. Vous êtes devenu agrégé d'économie, mais il paraît que vous avez abordé l'économie par la sociologie. Pourquoi ? Il fallait de la chair autour des chiffres ?
En fait, pour tout dire, j'ai été pris... moment où j'ai commencé à être étudiant, d'une fringale d'amphi extraordinaire. J'ai fait une prépa et puis je suis entré dans une école de commerce où je me suis prodigieusement ennuyé. Donc tout de suite, j'ai fait de la philosophie à la Sorbonne, jusqu'au DEA, qu'on appelle le M2 aujourd'hui. J'ai fait de l'archéologie, j'ai fait du droit, j'ai fait de l'histoire de l'art. Et j'avais à une époque, j'avais 5 cartes d'étudiant et je passais le plus clair en fait, de mes semaines à courir les amphis en allant de l'un à l'autre. Et c'était extraordinaire.
Et il a bien fallu choisir à un moment
donné.
Et à
un moment, il fallait choisir et surtout, il fallait continuer. Alors, quelle était la façon de continuer? Mon père m'a un peu coupé les vivres au bout d'un moment. Il a dit, bon, écoute, c'est bien, mais maintenant, il faut que tu gagnes ta vie. Et ma seule façon de gagner ma vie, c'était de rentrer à Normal Sup en troisième année, puisque j'avais l'avantage de devenir fonctionnaire stagiaire et d'être payé, n'est-ce pas? Ça fait partie des endroits où vous êtes payé. Or, en rentrant en troisième année à Normal Sup, on m'a dit, c'est très bien, mais maintenant, tu vas passer l'agrégation d'économie pour laquelle je n'avais pas de goût particulier, en fait, à l'époque. Et donc, je me suis mis.
Donc devenir agrégé.
Ah, bah oui, oui, ah, tout à fait, par nécessité.
En fait, oui, quelque chose pour lequel on n'a pas réellement de goût.
Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est parce que je suis suffisamment ouvert pour essayer de m'y intéresser. Je m'y suis intéressé, il se trouve que j'ai eu la chance, j'ai eu cette agrégation, puis j'ai fait un DEA d'économie passionnant à Nanterre. J'ai commencé à enseigner, puis après j'ai pris une année sabbatique où j'ai été consultant, et puis j'ai commencé ma thèse, et ça y est, je suis rentré dans la carrière universitaire.
Voilà, alors, vous avez consacré de nombreuses années à l'enseignement, vous êtes d'ailleurs toujours professeur d'université, mais depuis 2017, Olivier Babeau, un laboratoire d'idées singulier occupe votre temps et votre énergie, c'est l'Institut Sapiens, dont vous êtes le cofondateur et le président. Alors, qu'est-ce que l'Institut Sapiens?
Un think tank, en bon français, c'est un laboratoire d'idées. Un laboratoire d'idées, c'est un carrefour. Vous faites travailler ensemble des experts qui sont ici du public, du privé, le grand public. Vous essayez d'utiliser en fait la rigueur de l'université, mais avec peut-être le sens du temps que pourraient avoir des médias, puisque vous vous intéressez aux problèmes d'aujourd'hui, par exemple, la retraite, aux différents enjeux de la chute de productivité. Vous essayez de faire des études en essayant de mobiliser des expertises, en vous les aider à se valoriser. C'est passionnant et en fait j'avais vraiment ce besoin-là quand j'étais à l'université, j'y suis toujours, mais quand j'étais seulement à l'université avant de créer ça, c'était un endroit où vous allez rencontrer plein de gens, vous allez créer en fait un carrefour qui va vous permettre de créer des sortes de d'ébullition d'idées, de faire se rencontrer des gens et de rencontrer soi-même plein de gens, donc c'est passionnant.
Mais alors, donc vous avez réuni dans vos observatoires des personnalités brillantes qui viennent toutes du monde civil, mais comment un think tank peut être indépendant, non partisan?
On est non partisan d'abord parce que tous les experts, ils parlent en leur âme et conscience. Science, ils disent ce qu'ils pensent. On a des moyens qui sont relativement faibles parce qu'on a des besoins qui sont faibles et donc finalement on n'a pas besoin d'énormément de financement. Et puis c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette indépendance. Parfois de savoir penser à rebours de nous-mêmes. Moi, il m'arrive très souvent chez Sapiens de publier des gens avec qui je ne suis pas fondamentalement d'accord. D'ailleurs, moi-même, comme disait Oscar Wilde, je ne suis pas toujours de mon avis. Il m'arrive de changer. Je trouve très important de faire cet effort en permanence.
Ça s'appelle évoluer.
Oui, et puis cet effort toujours d'essayer de penser contre soi-même et de dire. Quelque part, chaque fois que j'ai une opinion, je me dis, mais peut-être que je me trompe. Voilà, j'ai cette idée-là vraiment. Et quand le type en face de moi n'est pas d'accord avec moi, je me dis, mais il a peut-être une part de vérité quand même, forcément, sauf si je pense qu'il est vraiment trop mauvaise foi.
Mais alors, arriver. Vous éditez également, vous venez de nous le dire, vous publiez.
On publie plein de gens, on publie des études, des tribunes, on fait des interviews, on a une chaîne.
Et il y a
YouTube,
des visioconférences, parce que pour diffuser.
Il y a des visioconférences, il y a des petits déjeuners, il y a des conférences, des afterworks. En fait, c'est un endroit où les gens se retrouvent, les gens expriment leurs idées, la formalise et puis essaye de les diffuser. Et puis on a la chance, je crois, d'avoir une bonne réception chez les gens qui nous gouvernent, qui nous interrogent. Voilà, on les rencontre. Et nous, on est en fait l'en deçà de la politique, puisqu'on n'est absolument pas partisan, on n'est pas dans l'engagement. En fait, on essaye modestement d'éclairer le débat public, de donner des idées. Et si les gens pensent que nos idées sont bonnes, ils les prennent et puis tant mieux.
Voilà. Et vous débattez assez souvent en ce moment sur justement l'intelligence artificielle. Bon, Sam Altman, le fondateur, enfin co-fondateur de ChatGPT, le robot conversationnel, Sam Altman a déclaré il y a peu, l'intelligence artificielle va très probablement mener à la fin du monde. Mais entre-temps, il y aura de grandes entreprises. C'est d'un cynisme absolu, n'est-ce pas, Olivier Babeau? Et alors, au sein de l'Institut Sapiens, vous organisez des débats en visioconférence avec Laurent Alexandre, par exemple, sur ce sujet brûlant, on va dire en général, de l'intelligence artificielle. Et là, maintenant, depuis quelques mois, surtout sur ChatGPT.
Nous faisons partie de ceux qui pensons que ce qui est en train de se passer est extrêmement important, que nous sommes vraiment à un tournant majeur avec cette accélération complètement folle qui est arrivée depuis quelques mois dans les capacités de l'intelligence artificielle. On aurait parlé il y a 8 mois, je vous aurais dit les choses différemment parce qu'on pensait qu'on était à une sorte de palier l'intelligence artificielle, qu'on avait un petit peu vu ce qu'elle savait faire, qu'on commençait à voir à peu près la vie avec les algorithmes, on commençait à s'y faire. Mais malheureusement, ça y est, la courbe repart, mais à une vitesse extraordinaire. Cette IA générative, hein, c'est ça l'idée de ChatGPT, c'était qu'elle va être capable de créer des textes.
C'est ça.
Elle va aussi créer des images, elle va pouvoir même créer des vidéos. Voilà, c'est extraordinaire. Et c'est avec une capacité de progression de la technologie qui est extraordinaire. ChatGPT 3, hein, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 175 milliards de paramètres, celui qu'on peut déjà utiliser. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur Internet pour regarder.
En fait, c'est toute la mémoire humaine qui
on le nourrit avec une partie qu'on peut trouver sur Internet.
Voilà. Je crois que d'ailleurs que c'est très curieux, vous allez m'expliquer pourquoi. Il paraît que c'est toute la mémoire humaine engrangée sur Internet jusqu'en 2021. Pourquoi pas jusqu'en 2023?
Bah parce qu'il faut quand même le temps d'arriver à les stocker, les traiter. Et donc, c'est compliqué d'aller jusqu'à maintenant parce qu'on ne peut pas aller en permanence sur le web tel qu'il se fait en ce moment. Il y a des choses qui s'écrivent tout le temps et partout. Et donc, vous êtes obligé d'avoir un petit décalage. Mais le plus incroyable, c'est aussi la capacité de progression dans les techniques. 175 milliards de paramètres jusqu'à maintenant. Le prochain, il devrait faire 100 000 milliards de paramètres.
Ben oui, c'est exponentiel.
En fait, on est sur une exponentielle. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur une exponentielle. Si on a fait un peu de maths, on sait que l'exponentielle, le problème, c'est la dérivée seconde, c'est-à-dire c'est l'accélération. C'est pas la vitesse, c'est-à-dire la pente de la courbe, c'est le fait que la pente est de plus en plus pentue. Et bientôt, ça va être la face nord de l'Everest.
Oui, c'est-à-dire la fin de l'humanité, comme nous l'annonce le fondateur de ChatGPT.
C'est possible un jour, mais le problème, c'est que bien avant, on aura beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'avant même que cette intelligence nous dépasse, ait conscience d'elle-même et peut-être prenne la décision de nous supprimer, il y aura des problèmes incroyables.
On va en parler dans un instant de tout ça. On va creuser ce sujet passionnant de ChatGPT qui fascine autant qu'il préoccupe. Mais avant cela, j'ai encore quelques questions à vous poser, Olivier Babeau, sur cette civilisation du divertissement qui s'est imposée à nous au point de devenir une tyrannie qui appauvrit nos cerveaux. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Cette promenade en compagnie d'Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, est passionnante. Il vient de faire paraître chez Buchet-Chastel la tyrannie du divertissement. Et voilà, j'ai 1000 questions à vous poser, cher Olivier. Bon, vous écrivez dans ce livre, nous n'avons jamais autant tous fait la même chose. Jamais. Que depuis que nous avons la possibilité d'agir différemment. Le grégarisme règne en maître. Les réseaux sociaux sont de vastes plaines où des gens s'agrègent en troupeaux d'affinités pour mieux s'opposer à d'autres. Donc, la foule règne en maître. La foule abolit l'introspection. La foule abolit la volonté individuelle. Alors, on a évoqué tout à l'heure la difficulté aujourd'hui de penser par soi-même, mais ça nous amène à la difficulté de choisir aujourd'hui. C'est carrément héroïque que d'être quelqu'un maître libre de sa pensée et qui marche à côté du troupeau.
En fait, on ne pensait pas qu'être libre serait si difficile. En tout cas, quand on rêvait de liberté, quand on ne l'était pas tellement, on pensait que ce n'était même pas un problème. Une fois qu'on serait libre, on saurait ce qu'il faut faire, puisque la liberté, c'était la réponse. Et en fait, ce n'est pas si simple. Notre problème, c'est quoi? Eh bien, en un mot, c'est qu'on a toujours un cerveau du paléolithique. C'est le biologiste s'appelle Wilson qui expliquait qu'on a malheureusement un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Ces technologies sont de plus en plus dignes des dieux. Les institutions ne les évoluent pas beaucoup. La démocratie, c'est toujours la même technologie que 2500 ans avant Jésus-Christ. Puis malheureusement, notre cerveau n'évolue pas du tout. On a toujours les structures du chasseur-cueilleur avec ses façons de fonctionner. Le chasseur-cueilleur, il était dans un monde avec beaucoup de contraintes, avec pas beaucoup de choix. Et donc, on n'a pas été calibré pour avoir autant de choix dans la vie, pour pouvoir être si libre. Et donc, quand on a peur, quand il y a beaucoup de choix, mais qu'il y en a trop, en fait, qu'est-ce que montrent les psychologues? Eh bien, instinct grégaire, on va faire comme la gazelle, on va aller dans le troupeau. Et donc, ça explique qu'on fasse tous la même chose, qu'on se suive tous, et que finalement, choisir, c'est un effort énorme. Choisir contre les autres, c'est un effort énorme. D'ailleurs, je crois que c'est le psychologue Olivier Houdet aussi qui dit que penser, c'est réfléchir, c'est penser, aller contre soi-même. Hein. C'est une opération où vous travaillez contre vous-même. C'est très dur d'aller contre soi-même, contre le principe de la plus grande pente, le principe de la facilité, hein, le principe de l'immédiateté.
Selon l'ANSES, les 13-19 ans surfent sur Internet 19 heures par semaine, sans compter les jeux vidéo et la télé. En tout, ça fait presque 37 heures par semaine devant les écrans. On ne va jamais revenir en arrière.
Ça va être très difficile, à moins qu'on ait une sorte de réaction prophylactique. Mais ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, on a des populations entières qui deviennent dépendantes. Il y avait un article dans le Wall Street Journal qui expliquait qu'il y avait environ 7 millions de jeunes entre 25 et 54 ans qui avaient quitté le marché du travail depuis le Covid. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les études avaient montré qu'en gros, C'était incroyable. D'ailleurs, c'est le titre, je crois, de l'article. En fait, il joue à Call of Duty sous drogue. Voilà. Il joue 2000 heures par an aux jeux vidéo, c'est-à-dire l'équivalent des heures que vous passez normalement au bureau. Vous pouvez aujourd'hui passer une bonne partie de votre vie devant les écrans. C'est exactement comparable à une vie qui serait complètement sous drogue. Parfois, alors l'un n'empêche pas l'autre. Une vie où vous êtes dépendant parce que les écrans créent, qu'on le veuille ou non, des formes de dépendance et il faut arriver à s'en prémunir.
Alors effectivement, dans ce livre, La tyrannie du divertissement, vous vous permettez cette boutade. Si Victor Hugo avait eu Netflix, aurait-il été si prolixe ? Bon, plus on s'amuse, plus on vide le temps de sa substance. En fait, à l'ère du zapping, le temps immobile, il nous fait peur.
On a le temps immobile, le temps silencieux, effectivement l'immobilité. Avoir une page qui sera immobile, où les lettres ne vont pas changer, où il n'y aura pas des notifications, quelqu'un qui va nous appeler. Vous êtes aujourd'hui appelé quasiment probablement toutes les 30 secondes et peut-être encore moins. Et quelqu'un qui va chercher à
notre
avoir un petit peu de votre attention.
Notre trésor d'ailleurs.
C'est le trésor qu'on garde et le trésor qui en permanence va essayer de capter ce fameux temps de cerveau disponible qu'on connaît bien du regretté particle lait. Parce que finalement, il a une logique économique relativement forte derrière et qui va encourager à la création de plein d'offres liées à cette captation de notre attention. Notre cerveau, aujourd'hui, notre attention est devenue une sorte de nouvel or que les entreprises vont s'arracher. Et il est capté avec succès. Cet or, on le perd pour nous, parce que sans ça, il aurait été utilisé pour nous et sans doute à meilleur escient.
Mais oui, mais alors pourquoi la démocratisation de la culture est-elle un échec ? Parce qu'on a tout tenté.
Quand Malraux, avec De Gaulle, a créé le ministère de la Culture, quand est apparue la télévision, on s'est allé de pair avec un espoir extraordinaire. Il y avait le Théâtre National Populaire, Jean Villard, Gérard Philippe qui jouait le Cid, et l'idée c'était qu'on allait porter la grande, c'est toute l'idée malracienne, de la grande culture à tout le monde. Au début de la télévision, le soir, vous y aviez le droit à Hernani de Victor Hugo, et puis les rois maudits dans le meilleur des cas.
Mais oui.
aujourd'hui, vous faites ça, je ne suis pas sûr que vous ayez énormément de succès. En fait, petit à petit, pour plein de raisons, mais que vous avez essayé de rendre les choses un peu plus accessibles, un peu plus ludiques, n'est-ce pas ?
Par exemple, le pass culture, Olivier Babeau, instauré en France depuis 2019, pass culture qui donne un crédit d'achat de biens culturels aux jeunes, il n'est, paraît-il, utilisé que pour acheter des mangas, très 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 rarement des auteurs.
Alors, les mangas sont un genre tout à fait respectable,
certes,
c'est très très bien, c'est très beau. Ce qui est dommage, c'est toujours le déséquilibre.
Voilà.
Le problème, c'est toujours le déséquilibre, c'est l'absence de proportion. Et en fait, le fait d'avoir aujourd'hui appelé culture tout, en fait, tout est culture, n'importe quelle production est culturelle, fait qu'on s'interdit de discriminer ou en tout cas de voir la différence. La réalité, c'est quoi ? C'est que la lecture de livres, elle, est en chute libre. Par exemple, que la musique classique est en chute libre aussi. Alors, je ne défends pas la musique classique contre les autres, je dis juste que c'est dommage d'oublier la musique classique, de la même façon que ce serait dommage d'oublier les autres expressions artistiques de qualité. Et donc, aujourd'hui, le fait est qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'art, la forme dominante. On s'interdit par égalitarisme, par difficulté à vouloir discriminer, on s'interdit toute hiérarchie aujourd'hui dans les expressions culturelles, de la même façon qu'on se les interdit dans le type d'occupation qu'on fait. Et donc, on crée des rapports où on se félicite du fait que, oh, regardez, les jeunes écoutent de la musique bien plus qu'avant. Bah oui, forcément, ils ont aujourd'hui la disposition des plateformes de streaming qu'il faut qu'ils vont pouvoir le faire en permanence. Est-ce que ça favorise des pratiques culturelles plus diverses et de qualité ? C'est pas certain. Il y a toujours ce problème aussi de l'enfermement dans des bulles cognitives qui font que les moteurs vont avoir intérêt, les algorithmes, à vous recommander des choses qui vont peut-être vous enfermer, vous donner le même son de cloche, puisqu'ils ont identifié ce que vous aimez vraiment.
Et tout ça, ça crée un marché. Oui. Alors, Olivier Babeau, la tyrannie du divertissement est-elle l'une des causes de cette crise du travail qu'on appelle en ce moment la grande démission, crise qui nous vient des États-Unis, où déjà quelques millions de personnes ont volontairement quitté leur emploi au profit d'une vie, plus frugale, mais tournée vers le loisir ?
C'est peut-être un symptôme, en fait, parce que cette évolution, elle a eu lieu même avant que les technologies arrivent, mais les technologies l'ont accompagné et l'ont accentué. Le travail est sorti de notre vie. Et puis aussi, on ne donne plus aujourd'hui au travail le sens qu'il avait autrefois. Autrefois, le travail c'était la souffrance rédemptrice, en partie. C'était important. Souffrir n'était pas mauvais, puisque finalement, c'était ça qui allait vous ouvrir les portes.
C'est dans la culture judéo-chrétienne.
Exactement. C'était la contrition. Ça vous ouvrait les portes un petit peu du paradis. Donc, c'était pas si mal. Et puis, le sens de de la vie, c'était la vie, c'était beaucoup de souffrance, de temps en temps un petit peu de plaisir, mais enfin fondamentalement la souffrance. Donc on l'acceptait. Peut-être qu'à partir des 30 Glorieuses, on a accepté de travailler aussi et de faire beaucoup d'heures supplémentaires parce que on était heureux de se payer les fruits de la croissance. Et c'était nouveau, c'était effectivement une découverte extraordinaire, l'accès en quelques années à un niveau de confort que nos grands-parents avant n'auraient jamais pu rêver. Aujourd'hui, au début du 21e siècle, on est là, LAS, n'est-ce pas, du confort. On le connaît, on a toujours vécu dedans, donc on trouve qu'il est normal et qu'il faudrait pas qu'il s'en aille.
Qu'il est acquis définitivement.
Exactement, et on ne voit pas pourquoi le travail, finalement, devrait être la condition pour avoir ce confort. Et puis, en jetant la valeur travail, ce qui à la limite pourrait se défendre, on pourrait penser qu'il n'y a pas de valeur dans la souffrance, surtout quand le travail est aliénant, bon, ça, c'est parce que ça existe, il l'était. En revanche, on a jeté aussi, avec l'eau du bain, la valeur effort. Et ça, c'est dramatique, parce que l'effort, il en faut au moins autant dans ses loisirs que dans son travail. Réussir ses loisirs, c'est ce qu'on a totalement oublié, ça demande de l'effort, ça demande des efforts, ça demande une forme de discipline. Il y a une discipline dans ses loisirs, au moins autant que dans son travail, et ça, on l'a oublié. C'est ça le vrai drame, en fait.
Alors, nous, on parle de grande démission. Pendant ce temps-là, comme la guerre des cerveaux fait rage et détermine la puissance des nations futures, eh bien la Chine, pour détourner les jeunes du divertissement par écran interposé, la Chine a pris une décision étonnante, applicable seulement dans une dictature. Les jeunes de 18 ans ne peuvent plus désormais jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo, seulement entre 20 et 21 heures, du vendredi au dimanche. En dessous de 18 ans, c'est 3 fois une demi-heure par semaine, sinon les parents payent d'énormes amendes. Les écrans, en fait, sont considérés comme un opium mental,
oui,
c'est ça ?
L'équivalent de TikTok est limité à 40 minutes par jour, hein, parce que ça ne s'appelle pas TikTok, mais c'est l'équivalent, même si les contenus sont, dit-on là-bas, plus éducatifs que chez nous. Ouais. Ils sont différents, c'est
ils sont très contrôlés.
Et c'est très contrôlé. Alors, effectivement, le gouvernement chinois le dit de façon très explicite. Il dit, pour nous, nos cerveaux, c'est la richesse principale. Pourquoi ? Parce que les cerveaux, c'est ce qui fait l'innovation. L'innovation, c'est ce qui fait les technologies. La technologie, c'est ce qui fait la domination économique et militaire. C'est très clair. La puissance de demain, elle se prépare aujourd'hui dans les cerveaux de nos enfants. Et donc, il faut avoir les meilleurs cerveaux et il faut les protéger de cet opium mental, effectivement. C'est exactement le type d'idée qu'ils ont. La Corée
donc,
du Sud a le même
Chine,
problème. Hein.
La Chine fait commerce de tablettes tout autour de la planète.
Ah bah oui, c'est plus facile
pour
de vendre aux autres.
Les enfants, voilà, des autres nations, mais surtout, elle réduit le temps devant les écrans pour sa jeunesse.
Et on oublie aussi que le problème de l'État de la Corée du Sud, c'est d'empêcher ses enfants de trop travailler. Vous savez que tous les enfants
ça,
de Corée du Sud vont
ça.
À des écoles, une deuxième école le soir, ils y vont tous.
Oui,
alors, ils ont obligé
oui.
les écoles à fermer à 22h pour que les enfants ne travaillent pas trop. Mais du coup, les écoles ont créé des sites internet et le pic de connexion chez les Coréens du Sud est à 1h du matin. On empêche, on n'arrive pas à les empêcher de bosser.
Mais là, il faudrait parler des mamans tigres.
De
c'est encore un autre sujet,
c'est les mamans tigres. En fait,
il faut nous expliquer ce que sont les mamans tigres en Asie.
Les mamans tigres, c'est des mamans qui vont... Il y a un livre qui est très célèbre là-dessus, écrit justement par une maman tigre. L'idée, c'est que vous allez énormément pousser vos enfants. Vous allez les contraindre formidablement, les obliger à faire du piano ou du violon. Et rien d'autre, attention, pas d'autres instruments. Il n'y a que le piano ou le violon qui sont considérés comme des instruments nobles.
Non,
vous n'allez pas jouer
voilà.
chez les copains, vous n'allez pas faire de sleepover et soirée pyjama. Tout ça, c'est fini. Vous allez travailler parce que c'est une affaire extrêmement sérieuse. C'est ça, les mamans tigres.
Taux de suicide.
Et alors, oui, alors, le taux de suicide est probablement important. Je ne sais pas s'il est vraiment plus fort. En revanche, les réussites, ça sont vraiment authentiquement plus importantes qu'ailleurs. Il faut se rendre compte, quand on est en France, où on a tendance à voir peut-être les débats franco-français, que le reste du monde n'est pas totalement sur la même longueur d'onde. Il y a un reste du monde qui est dans une détermination, dans une rage d'arriver à apprendre et à être meilleur, en particulier en Asie du Sud, du Sud-Est, qui est absolument incroyable. Il faut se rendre compte que ces gens-là, ils sont quand même 1,4 milliard hein, en Chine.
Officiellement,
c'est quand même, alors
et
officiellement,
un peu plus en réalité.
Un peu plus
hein.
en réalité.
Voilà.
Alors, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois volontiers qu'il y a autant, enfin qu'il y a environ 60 millions de pianistes de haut niveau en Chine, c'est-à-dire quasiment autant que la population française. Il faut se rendre compte quand même des ordres de grandeur. Donc, nous en face, évidemment, avec notre quiet quitting, vous voyez, notre démission, le droit à la paresse, on est quand même dans des débats qui, vu de là-bas, doivent paraître quand même assez martiens.
Olivier Babeau, bon, il est temps de parler de ChatGPT, ce robot conversationnel issu de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire capable de créer des contenus originaux de textes, images et vidéos à une vitesse sidérante, en ayant au préalable avalé et digéré toutes les informations disponibles, presque, en tout cas à ce jour, sur Internet. Alors, plus besoin d'ingénieurs en informatique. Hein. ChatGPT peut générer un code complexe en quelques secondes, mais aussi répondre à des épreuves de philo. ChatGPT est né dans les laboratoires d'Elon Musk et de Sam Altman. Mais qui sont les humains qui gèrent et qui encadrent la valeur des données ? qui permettent donc à cette intelligence artificielle générative de fonctionner ?
Le problème, c'est qu'on ne le sait pas tout à fait. Ce n'est pas d'une très grande transparence. Et puis, on peut dire de façon...
on ne sait pas.
On sait à peu près, mais disons que ça se décide sur la côte ouest des États-Unis. Voilà, en gros, hein, c'est à peu près hein, dans la Silicon Valley. Et on le voit bien, puisque ChatGPT reflète énormément les valeurs, les façons de penser, la morale qui accourt aujourd'hui à l'ouest des États-Unis et pas forcément d'ailleurs dans d'autres endroits des États-Unis. C'est assez frappant de voir combien, pour le dire clairement, ChatGPT est woke aujourd'hui dans les questions qu'on lui pose, hein, et dans les réponses qu'il apporte. Ce qui fait dire un premier danger parmi tous les dangers, toutes les réflexions qui naissent à travers ce genre d'outils, c'est cet outil, contrairement à ce qu'était le moteur de recherche autrefois, qui à une question vous répondez par 3 millions
Google,
de liens.
Par exemple,
c'était l'ère du moteur de recherche. Il vous répondait par 3 millions de liens. Vous étiez classé par ordre d'importance quand même. Donc, vous alliez regarder les 4-5 premiers et puis vous alliez vous-même faire la réponse. Vous alliez vous-même faire la synthèse.
Mais ChatGPT vous donne la réponse, donc elle est formatée.
Tout est formaté, c'est rédigé dans un français parfait, sans doute un français encore meilleur que celui que vous auriez pu produire vous-même pour beaucoup de gens, et avec une réponse où tout est donné, tout est ordonné, comme si c'était la vérité, alors qu'en réalité, on sait que malheureusement, il n'y a pas une vérité, ou en tout cas, il y a toujours des manières de présenter les choses. Et donc, une question aussi triviale que « qu'est-ce qu'une femme ?», par exemple, il y aura aujourd'hui des réponses assez diverses, des façons très différentes. Pareil sur l'avortement, d'ailleurs. Il y a plein d'illustrations intéressantes qui montrent qu'il n'y a pas de neutralité, et c'est d'autant plus gênant si le système est censé vous dire la vérité.
Mais alors, peut-on dire que ChatGPT produit du texte en comprenant la teneur et en comprenant les possibilités de manipulation que ça induit ?
Alors, c'est ça qui est dingue. Il n'y a pas d'intelligence derrière. C'est-à-dire que il ne comprend pas ce qu'il dit.
C'est-à-dire, il n'a pas un avis.
Absolument pas. Il met des mots par probabilité, en fait, pour dire les choses de façon simple. Mais c'est tellement complexe et avec tellement de milliards de paramètres que finalement, ça en fait des réponses qui sont très souvent absolument bluffantes. Et alors, en fait, c'est un peu l'effet calculatrice qui va se passer. Parce que vous avez aujourd'hui une intelligence artificielle qui va pouvoir faire un travail qui aujourd'hui était réservé à des gens moyennement à bien qualifiés. C'est-à-dire qu'il fallait du travail pour arriver à produire ces textes, aller faire cette synthèse, demain faire ces images ou même faire ces vidéos. Et en fait, cette compétence moyenne, elle va être remplacée. Elle va toujours être extrêmement utile pour des gens qui ont la compétence du dessus, c'est-à-dire la couche supérieure. Par exemple, en fiscalité, vous êtes chevronné, vous savez comment les choses se passent. Ça va vous aider à faire une note de synthèse extrêmement rapide, par exemple, en comparant différentes règles, évidemment, en allant chercher des jurisprudences extrêmement complexes. Ça vous économise du temps que vous auriez peut-être utilisé en faisant travailler un junior, par exemple. Mais vous êtes senior, vous n'avez plus besoin du junior, ça vous coûte moins cher, vous allez faire un travail plus rapidement. Quand on n'a plus besoin de junior, comment devient-on senior ? Ça fait partie des problèmes qui se posent d'ailleurs.
Et quand vous dites, en décembre, il y avait déjà 100 millions d'utilisateurs dans le monde.
C'est allé extrêmement vite. Hein. En 5 jours, il y a eu 1 million d'utilisateurs et c'est allé une vitesse qui est absolument ahurissante. Aujourd'hui, je ne connais quasiment plus personne qui n'ait pas testé à un moment donné cet outil.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'à une même question posée, ChatGPT risque de fournir le même texte.
Eh ben non, il est capable de régénérer. D'ailleurs, vous pouvez lui demander, tiens non, ça ne me va pas, refais-moi une réponse. Parce qu'il y a plein de façons possibles de changer, c'est à chaque fois des textes différents. Donc, la vraie question qui va se poser, c'est que va devenir le travail humain en face de ça ? Est-ce qu'il n'y en a pas une partie justement qui n'aura plus de compétences ? Est-ce qu'il n'y aura pas, t'as l'effet calculatrice dont je parlais, c'est quoi l'idée ? La calculatrice, elle va permettre à des gens qui sont très forts en maths d'aller plus vite, d'aller plus loin dans les mathématiques. Et puis aussi, comme elle va remplacer les capacités, elle va faire que, un peu comme moi d'ailleurs, heureusement j'ai les enfants qui m'aident, mais je vais oublier l'étape de multiplication parce que j'en ai plus besoin, j'ai une calculatrice. Donc vous voyez, il y a toujours cet effet ambivalent de la technologie, elle peut vous remplacer ou vous propulser.
Donc ChatGPT va décrocher toutes les prochaines médailles Field, par exemple en mathématiques.
Elle peut aider les grands chercheurs à progresser, peut-être qu'un jour, elles seront capables de faire de la recherche à complètement faire eux-mêmes de la programmation, à découvrir. Et là, quand elles feront ça, d'ailleurs, ça sera peut-être pas loin justement de la fameuse singularité où l'IA risque de nous remplacer.
Mais
avant ça, ça va complètement changer l'ordre du travail.
Mais oui, ce robot peut remplacer un professeur en médecine, conseiller donc des entreprises du CAC 40, composer un poème, créer des longs métrages, écrire un opéra. au secours.
Alors, ce qui est incroyable, parce que sur l'opéra, c'est un bon exemple, jusque-là, la créativité, s'il y avait bien un truc dont on disait que, bon, c'est quand même à l'abri, les humains sont les seuls à pouvoir être créatifs,
l'âme,
n'est-ce pas ?
La grâce.
N'est-ce pas ? Et puisqu'il y avait toujours cette idée-là, qu'il y a ce supplément, il y a l'âme, il y a ce truc, les muses, et qui vont arriver, mais on se rend compte que malheureusement, la création, c'est quoi ? C'est que vous allez reprendre parmi des millions de choses que vous avez vues confusément, vous allez les réagencer. Et bien, ChatGPT, il est quand même capable de le faire. On le voit pour les images, hein. Il est capable de créer des images, il est capable de créer de la musique avec certaines règles. Totalement original.
Qui génère de l'émotion.
Et oui, bien sûr, vous arrivez tout à fait. Il y a des images qui sont extrêmement étonnantes. Alors, une question qui se pose, c'est est-ce qu'on sera toujours ému si on sait que c'est une machine qui l'a créée ? Est-ce qu'il n'aura pas besoin de savoir que c'est
l'oublier.
Un être humain ? Regardez, les échecs, ça fait très longtemps que la machine est bien meilleure que l'homme. Est-ce qu'on va regarder des machines jouer entre elles ? Pas vraiment. On va continuer à regarder Magnus Carlsen, qui est le meilleur du monde, à jouer. En sachant que ce qu'il fait est forcément moins bien qu'une machine, mais on admire quand même, on a de l'émotion en regardant. Est-ce qu'on ira regarder une machine qui joue au piano ? Je ne pense pas, d'ailleurs, aujourd'hui encore.
Mais
aujourd'hui,
on pourrait.
En revanche, peut-être, mais on continuera à les regarder. Bah, peut-être que le spectacle vivant, encore une fois, la présence physique, la capacité orale, vont reprendre de l'importance à un moment où les machines vont être capables de produire de l'écrit en quelques secondes, bien mieux que n'importe qui pourrait le faire. En fait, l'humain, je crois, va quand même finir par toujours retrouver sa place, retrouver une place qui va être différente et qui va peut-être mettre en valeur des compétences différentes.
Alors, vous dites que pour l'instant, ChatGPT se sert de 175 milliards de paramètres.
Voilà, il y a 175 milliards de paramètres.
D'accord.
Dans les réseaux de neurones. Oui, c'est
alors,
du deep learning, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle en termes techniques, hein, de l'apprentissage profond, si vous voulez.
Mais il va falloir créer des contrôleurs de l'éthique. Parce que, en fait, tout ça canalise la pensée du moment avec ses précautions, mais la pensée du moment, on parlait du wokisme, de la cancel culture. Que seront les réponses fournies par ChatGPT dans 5 ans, 10 ans ?
Bah, c'est ça qui est complètement...
Ça va évoluer grâce à qui, en fonction de qui ?
Et en fonction de la façon dont on va nourrir l'ordinateur,
bien
et puis
sûr,
des règles qui seront derrière.
Qui derrière ?
Regardez, la Chine a annoncé qu'ils allaient... produire l'équivalent de ChatGPT. Vous pensez quand on va poser les questions sur les Ouïghours ou sur le grand président Xi, il aura des réponses qui
ou
ne seront pas sélectionnées.
Qui ne figure pas dans les livres d'histoire des petits Chinois.
On sera très curieux d'aller poser les questions sur Tiananmen, effectivement, à ce moteur. En fait, chaque endroit va pouvoir programmer à volonté en fait, les réponses et le type de vérité. Donc, regardez, il y a quelques années, on parlait de quoi ? De la post-vérité, de l'explosion de la vérité. En fait, ce qui nous menace, c'est en fait, non pas une explosion, mais une surdétermination, un surcontrôle de la vérité, en fonction des zones sans doute, mais chaque État, chaque endroit, chaque entreprise, chaque zone de domination culturelle va pouvoir déterminer sa propre vérité, vivre d'ailleurs dans des représentations qui seront complètement imperméables aux représentations des autres et totalement différentes.
On ne sera bientôt plus que en fait, spectateur de ce monde.
Ça va être très difficile d'avoir un accès, d'avoir une action là-dessus, parce qu'on va avoir du mal à communiquer aux autres nos doutes. Est-ce qu'on va pouvoir lutter contre une force aussi grande que un moteur qui va être là pour vous dire la vérité, comme une sorte de Big Brother parlant ? Jusque-là, il ne faisait que nous contrôler. Maintenant, en plus, il nous dit exactement ce qui est vrai. D'ailleurs, c'était prévu dans 1984, hein, l'idée de la réécrire le passé, le maîtrise du langage. En fait, tout ça, ça se passe. Malheureusement, la différence entre la science-fiction et la science, malheureusement, on se rend compte que c'est souvent quelques dizaines d'années.
Donc, je vous entends bien, Olivier Babot, et j'en déduis qu'on a perdu la partie. En fait, l'intelligence artificielle pense à notre place, pendant que nous, eh bien, nous sommes dans la tyrannie du divertissement.
Eh bien, faisons un exercice, vous savez, d'optimisme. Je crois que c'est Gramsci qui dit il faut avoir le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté. Croyons que l'homme, et regardez, c'est Homo sapiens depuis le début. On était plus faible en fait que Néandertal et pourtant on a survécu à Néandertal qui a disparu il y a 30 000 ans. Pourquoi on a survécu ? Parce qu'on a une capacité d'adaptation incroyable malgré notre faiblesse. On a survécu d'ailleurs au changement climatique, au changement de conditions, aux difficultés, aux maladies. On a réussi toujours à trouver des solutions aussi pour régler les problèmes créés par la technologie. On développe des technologies pour régler les problèmes réglés par la technologie. Et donc je crois qu'on est dans la phase où là on est en train de prendre chacun conscience de ce qui se passe. On est en train d'écrire le mode d'emploi de ce nouveau monde qu'on a créé avec des technologies. Les technologies sont arrivées sans mode d'emploi. On a commencé à les accueillir sans trop réfléchir. Et là, on commence à réfléchir. Cette prise de conscience, elle arrive. Je pense qu'on va trouver des façons d'exister et de continuer à être humain dans ce monde de machines.
Continuer à être humain dans ce monde de machines. Alors, vous avez publié en 2020 le nouveau désordre numérique chez Buchet-Chastel. On peut plonger dans cet essai passionnant qui vient de paraître toujours chez Buchet-Chastel, La tyrannie du divertissement. Je vous remercie infiniment pour cette balade intense grâce à laquelle on a pu apprendre tant de choses. Cette conversation est à réécouter quand vous le souhaitez sur le site d'Europe 1 en podcast. Et je vous dis à très très vite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.